J'écoute la radio Potu. 7.5
Moquette, par mot,
grand seigneur.
Maurice,
montagne.
Moquette,
maudit,
molette.
Un gros mot.
Mouette, moto,
montagne,
moniclé,
mocassin,
monticule,
mongolfière.
Par mots et par mots, portrait sonore dans les monts du Lyonnais.
Moteur,
exprimer des sentiments.
À dire.
Moritorité salutane. Communiquer.
Les mots doux.
À échanger.
Mon cul. Les mots à rien. Les uns.
Les mots d'ici d'ailleurs.
À dire ce qu'on veut pas
dire plus qu'un mot. Je peux développer.
Je suis pas très bon en français.
Mots et paroles.
À évoquer des choses. Voilà, ça sert à ça. Je pense les mots à dire les choses.
Bonjour madame.
Bonjour.
Comment s'appelle cette petite boulangerie ?
Fournil du Potu à Brugliol.
À Brugliol. Et ça fait longtemps que vous officiez ici ?
3 ans.
Vous êtes combien de boulangeries dans Brugliol ?
Une seule boulangerie. Il n'y a que 650 habitants, donc voilà, c'est un petit village.
D'accord, je vais vous laisser servir. Allez-y.
Merci. Bonjour.
Et donc l'installation ici, c'est bien fait. C'était une boulangerie avant vous déjà ?
Oui, ça existait déjà. Ça avait été fermé pendant 6 mois, donc nous, on a rouvert.
D'accord. Et vous êtes spécialisée, vous faites du bio ?
Non, on ne fait pas que du bio. Hein. On fait du traditionnel et du bio.
D'accord. Et vous êtes combien ici à travailler ?
On est 2 avec mon mari.
Voilà. Votre mari. On va pouvoir le voir peut-être, votre mari,
non,
tout à l'heure ?
Il s'est absenté, là. Il ne devrait pas tarder à revenir. Il était faire une livraison. C'est parce que mon mari a voulu faire la boulangerie, donc moi j'ai suivi.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes formes de pain, etc.
Donc on a la baguette et la flûte traditionnelle. Et puis on a un peu notre spécialité qu'on vend bien, la flûte polka qui est farinée avec la farine de seigle et la baguette polka, donc de même type.
D'accord, ça c'est... Et je vois aussi le vivaré.
Le vivaré, oui, c'est une forme différente, un dessin différent.
Voilà, dans l'antre de la boulangerie, là où tout se fait. Donc évidemment, tout est fait manuellement
Manuellement, oui, avec quand même du matériel quand même moderne, parce que je suis tout seul, donc on en est... Parce que je veux dire, maintenant, à part quelques rares personnes qui façonnent encore à la main, pas qui façonnent, mais qui pétrissent à la main, mais ça reste, je dirais, très anecdotique, parce que, je veux dire, quand vous n'avez que le pain à faire encore, bon, ça va, quand vous faites que des boules, des choses comme ça, mais moi, je fais quand même différentes sortes de pain, avec différentes sortes de farine, donc si à chaque fois, il fallait que je pétrisse à la main, je veux dire, on n'en sort plus, quoi. Moi, j'ai connu, de par ma famille, qui était des boulangers, le pétrissage à la main, c'est un travail qui était vraiment un travail très, très dur, et puis qui nécessite du personnel, et les gens ne savent plus, on ne sait plus pétrir à la main, et puis je dirais que cette variété de pain pétri à la main, je dirais, les consommateurs ne sont plus prêts à la manger parce qu'on n'a pas les mêmes résultats qu'avec du mécanique. Donc on a une pâte qui est quand même beaucoup plus, dure. Et on n'a pas l'alvéolage, on n'a pas le pain tel que les gens le connaissent maintenant. Donc par contre, ce que je fais, je pétris mécaniquement, mais je façonne beaucoup à la main. Mm-hmm. Tout ce qui est pain spéciaux, tout ce qui est baguette spéciale, tout ce qui est pain biologique, tout ça, c'est façonné à la main. Ce qui fait qu'on a quand même un alvéolage supplémentaire, on a une légèreté de pâte qu'on n'a pas sur un façonnage mécanique. Mais bon, j'utilise aussi une façonneuse mécanique parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Pour tout ce qui est pain, je dirais courant, baguette et flûte, c'est vrai que s'il fallait que je les fasse à la main, ce serait beaucoup trop de travail, quoi.
Vous pouvez nous faire visiter très sommairement votre atelier ?
Voilà, donc là, c'est plutôt la partie pâtisserie et fabrication de pain. C'est-à-dire que là, bon, il y a les tours réfrigérées, il y a un laminoir, là, il y a... un tour parisien, donc pour mettre tout ce qui est les pains, lorsqu'on façonne les pâtons, on les fait reposer. Il y a le pétrin mécanique.
Alors, tour parisien, pourquoi?
Alors, tour parisien, ça s'appelle comme ça, si vous voulez, c'est parce qu'il y a des étages sur lesquels, des étagères sur lesquelles on met le pain à reposer, les pâtons de pâte à reposer, et ensuite, avant de les façonner. Mmh. Ça s'appelle un parisien, donc on appelle ça un tour parisien parce qu'il y a ce système de planches, voilà, tout simplement.
D'accord.
Voilà. Alors, j'ai aussi un refroidisseur d'eau parce que bon, la température d'eau est très importante dans la pâte. La température d'une pâte ne doit pas dépasser les 22, entre 22 et 24 degrés maximum. Donc en hiver, l'eau du robinet va très bien. Mais l'été, lorsqu'on a des farines qui tournent à 30, 35 degrés selon la température ambiante, si l'eau du robinet est en moyenne à 15 degrés, on arriverait à des températures de pâte qui dépasseraient les 28 ou 30 degrés. Et là, on a une fermentation tout de suite immédiate et on aurait un qui ne serait pas de qualité. Donc on est obligé d'avoir de l'eau froide. Mmh. Et même dans certains cas, je pétris, je mets avant dans la pétrie des glaçons. Pour vraiment sortir une pâte froide, parce que le temps que je la pétris, c'est quand même deux heures de travail entre le moment où je la pétris et le moment où je la mets en chambre. Il ne faut pas que ça fermente, quoi. Sinon après, ça pose des problèmes au niveau de la qualité du pain.
Ah. D'accord, vous me parlez de deux heures de travail, vous pouvez nous donner un peu une idée du début de votre journée?
Ben écoutez, en moyenne, je commence à 1h du matin, en semaine, et le dimanche, ou quand j'ai beaucoup de travail, ça peut être à minuit, voire 11h, 11h30 du matin, enfin de la nuit plutôt, jusqu'à midi et demi. Et puis je reprends à 16h jusqu'à 17h, là c'est la fabrication de la pâtisserie, toute la mise en place, parce que bon, il y a pas mal de boulot dans une pâtisserie de campagne, dans une boulangerie de campagne, il faut faire tout.
Et la question que se pose tout brûlole, quand dormez-vous?
Ben, je dors 3 heures la nuit et puis 1h30 l'après-midi.
Vous dormez 4h30 à 5h par jour,
voilà, c'est ça.
Depuis combien de temps?
Ben, depuis 3 ans.
Et oui. C'est un rythme que vous tenez bien?
Oui, sans problème.
C'est vrai?
C'est une habitude. J'ai toujours été habitué, même avant je travaillais en cuisine et avant je travaillais en pâtisserie, j'ai toujours été habitué à travailler pas mal et à dormir peu. Ça, c'est une habitude.
Et 1, 2, 3, 2, 2, 3.
Ensuite, là, c'est la partie, je dirais, qui est peut-être la plus intéressante. Parce que là, j'ai un outil de travail qui est exceptionnel. Et je pense qu'il y a très peu de boulangers, je veux dire de boulangers reconnus comme boulangers, hein, qui ont une boulangerie, qui sont inscrits au registre du commerce comme étant boulangers. Parce que des fours comme ceux-là, il en existe encore un peu hein, dans la région, mais qui sont utilisés vraiment épisodiquement. Alors que des boulangers qui font leur pain quotidien et régulièrement dans un four comme ça, il n'y en a plus. Je vais être le seul sur le canton. Je sais qu'il y en a encore deux ou trois sur Lyon. Mais ça, c'est un four à bois bâti qui date d'à peu près un siècle.
Et... Alors, on peut peut-être le décrire.
Alors, ben, c'est un four, oui. Alors, c'est un four, il a été modifié un peu. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était un four, c'était dans les fours de boulanger. Donc, je vais vous le montrer, vous allez mieux vous rendre compte.
Alors, on se rapproche du four qui est fait de briques rouges. Hein, briques, c'est le mot.
Voilà, c'est des briques. Enfin, la façade est en briques, hein.
La façade seulement, c'est voilà. L'habillage seulement. Alors.
Voilà, parce que tout le restant est en pierre. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez un four qui fait 3,50 m de long, sur environ 2,50 m de large. Grosso modo, je crois qu'il est évalué entre 8 et 9 mètres carrés, hein. 9 mètres cubes, ou carrés, je ne sais plus. Enfin, je ne me rappelle plus exactement de la taille du contenant exact. Mais pour vous donner une idée, on peut cuire 30 à 35 kg de pain dedans. Hein. Donc c'est un four qui est à l'origine... en pierre, et non pas en brique, hein, en pierre.
Ah oui.
Et il a été modifié, parce qu'à l'origine, c'était un four romain, c'est-à-dire qu'on mettait le bois directement dedans. Et il a été modifié pour pouvoir s'adapter à la cuisson des pains modernes, que sont les flûtes, les baguettes et les petites pièces. Alors qu'à l'origine, si vous voulez, c'est des pains qui étaient des fours qui étaient prévus pour cuire des grosses tourtes de 2 kg, 3 kg, voire plus.
Et quand vous dites four romain, c'est parce que c'est...
Parce que, si vous voulez, le fait de cuire, d'avoir un four dans lequel on met le bois directement dedans, ça s'appelle un four romain.
D'accord.
Voilà, parce que vous voyez, c'est quand même assez âgé. C'est les Romains, les premiers, qui avaient inventé ce style de four-là. Donc, on l'a transformé avec un four, on a mis un gueulard dessus. C'est-à-dire qu'on a mis une pièce de fond, on a creusé la sole, on a mis dessous un foyer. Donc, on met le bois dessous le four. La flamme sort par le trou qui a été creusé. Dessus, il y a une plaque de fonte creuse sur laquelle on adapte une autre pièce de fonte qui a la forme d'une grosse gueule. Et si vous voulez, la flamme sort et au lieu de sortir droite, elle est rabattue et elle va vers le fond du four. Ça fait une très grosse flamme. Et donc, voilà le principe de ce qu'on appelle chauffer par le gueulard. C'est une chauffe directe, toujours par flamme. Donc, on a le droit à l'appellation four à bois. Contrairement à des fours maintenant modernes, qui sont les fours à sol tournante, qui eux sont avec une chauffe, ils ne sont pas chauffés à l'intérieur, donc eux normalement n'ont pas le droit à l'appellation four à bois.
Alors on chauffe par le gueulard ?
Voilà, alors on chauffe, si vous voulez, on chauffe, c'est comme s'il y avait un gros foyer de comment qu'on appelle, de poêles, donc on met beaucoup de bois, ça sort une flamme, une grosse flamme, et cette flamme est rabattue par la pièce de fonte, si vous voulez, et elle sort tout droit, parallèle à la sole, et donc elle chauffe le four comme ça, si vous voulez.
D'accord, vous pouvez nous sortir une bonne vieille expression de boulanger, là, est-ce que chauffer par le gueulard, il me semble que déjà...
Chauffer par le gueulard, de toute façon, par définition, les boulangers gueulent, c'est sûr, on est toujours en train de râler, nous, de toute façon, toujours qu'on gueule, qu'est-ce que vous voulez, je vous dise, comme tous les métiers artisanaux, si vous voulez, les métiers qui sont quand même des métiers difficiles, on est quand même soumis à une certaine pression, puis quand ça va pas, on gueule, alors là, c'est le four qui gueule, c'est pas nous, quoi, ça repose.
Ça repose votre femme, surtout, voilà. Je pense.
Mais c'est vrai que c'est un outil de travail extraordinaire, parce que... C'est très contraignant parce qu'il y a le temps de chauffe. Il faut savoir qu'on chauffe grosso modo, le matin en arrivant, on chauffe une bonne demi-heure, voire trois quarts d'heure, selon si c'est le mardi ou le dimanche. Et ensuite, il y a un temps de repos du four. Donc, si vous voulez, moi j'enfourne encore à la pelle.
Les pelles qui sont au-dessus de nous. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, j'enfourne trois flûtes d'un coup ou cinq baguettes d'un coup. Donc, si vous voulez...
C'est peu par rapport...
C'est peu parce que je veux dire, si j'avais, par exemple, c'était un enfournement sur tapis, un four moderne à capacité égale, en 10 minutes, il enfournait. Alors que moi, il me faut 20 minutes. D'accord. Ensuite, il faut donc 20 minutes de cuisson. 5 à 10 minutes d'enfournement, ça veut dire qu'entre... Et après, il faut faire réchauffer le four, refourner. C'est-à-dire qu'entre chaque fournée, autre moment où j'allume le four, et un moment où je rallume le four pour la deuxième fois, il va se passer déjà presque une heure. D'accord. Et avant de remettre du pain dedans, il va se repasser encore 20 minutes, grosso modo. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de se lever beaucoup plus tôt.
D'accord. Sans parler, là, ça fait longtemps que le four est éteint, je pense.
Il fait très chaud.
Mais il fait très chaud.
Il fait très chaud. Le four est éteint, ça fait à peu près une heure et demie que le four est éteint, une heure et demie à deux heures. Mais si vous voulez, c'est le principe des fours justement à bois, c'est qu'il restitue sans arrêt la chaleur. Et c'est un four, si vous voulez, qui est là maintenant, qui est chaud à cœur, depuis 3 ans que je l'ai rallumé. Ça fait, il est en moyenne, on va dire qu'il est à peu près 150 degrés à cœur continuellement. Donc après, il faut le faire remonter à 230-240, le faire retomber à 230 à peu près, pour pouvoir cuire. On cuit le pain entre 220 et 240 degrés. Je vais donner une fourchette, c'est jamais bien précis, quoi.
Il y a même l'icône de... C'est qui? C'est la Vierge Marie?
Non, du tout. C'est l'archange Saint-Michel.
C'est le Saint-Patron?
Non, du tout. Le Saint-Patron des boulangers, c'est... comment il s'appelle? Saint-Honoré.
Saint-Honoré. Et là, c'est?
C'est Saint-Michel Archange, ça.
D'accord. C'est vous qui l'avez mis là?
C'est moi qui l'ai mis là, oui, parce que bon, je suis chrétien, je suis croyant. Et c'est vrai que le fait d'avoir l'archange Saint-Michel, disons que c'est pour moi, quand on travaille de nuit... Je me sens protégé, quoi, parce que c'est vrai que le travail de nuit est un travail difficile physiquement et psychiquement, parce que la nuit, vous êtes seul. Et quand vous êtes seul, bien entendu, vous gambergez, comme toutes les personnes qui travaillent seules la nuit. Donc, et on peut être des fois attaqué de différentes façons. Donc, pour moi, c'est une façon d'avoir une protection.
D'accord. Et quand vous dites que le boulanger pense, à quoi vous pensez la nuit ?
Mais on pense à tout. Je veux dire, on pense à ses problèmes familiaux, on peut penser à son travail, d'abord, premièrement, c'est quand même assez important. Et puis, on pense un petit peu au village, on pense à ce qu'on vit, on a vécu la veille, ce qu'on peut vivre dans la journée. Moi, je sais, par exemple, que je me considère un petit peu, sans prétention, un petit peu comme le veilleur du village, quoi. Mmh. Et c'est vraiment très, très, très rigolo, parce que lorsque j'ai des moments d'un petit peu de calme, je sors dehors, surtout l'été, il fait bon, là, vers les coups des 4-5 heures du matin, ou même avant, et vous avez cette impression d'être le seul dans le village, vous savez, de veiller, d'être le veilleur du village. Et c'est vraiment important. Donc c'est pour moi le moment aussi, comme je suis croyant, de prier pour les gens du village, de prier pour tous ces gens-là, de tous ceux qui habitent, tous ceux que je vais rencontrer aujourd'hui, tous ceux qui vont venir au magasin, parce que c'est important. Parce que pour moi, le fait d'être boulanger la nuit, c'est, bon, bah, c'est quand même quelque chose de, d'important, dans le sens où on est un peu à part des autres. On mène une vie à part, d'abord, premièrement, on ne peut pas malheureusement toujours se mêler à la vie du village, lorsqu'il y a des repas, choses comme ça, on ne peut pas parce que c'est trop tard. Mais on a aussi, par contre, cette grâce ou cette chance de pouvoir être quelqu'un qui veille. Voilà, d'intercéder, de prier, parce que c'est vrai que je prie beaucoup pour les gens du village, pour les gens de ma famille, pour d'autres personnes, parce qu'on me demande aussi de prier pour d'autres personnes, parce que j'ai le temps.
Vous faites le lien.
Voilà, je dis, c'est un peu ça, je suis un peu un lien, si vous voulez. D'abord, on est un lien réel, en tant que boulanger, entre les gens du village. Ça, c'est clair, ça, c'est important. On voit bien que la boulangerie est un lieu où les gens se rencontrent, les gens parlent, les gens commentent les événements, lorsqu'il y a un décès...
Est-ce que vous sentez qu'il y a un esprit spécial dans Bruyolles ou...
Ben, disons que nous, c'est vrai qu'on n'est pas des Bruyolois pure souche, hein, on est des pièces rapportées, comme on dit.
Vous êtes d'où d'ailleurs ?
Nous, moi je suis originaire de la Champagne, d'un tout petit village qui s'appelle Lévigny, où il y avait 100 personnes. Et je veux dire, je connais bien l'esprit du village. Hein. Je m'y fonds très facilement parce que c'est quelque chose que je connais bien et que j'aime. Hein. L'esprit de village, bon, c'est un esprit qui est bien spécifique. On n'aime pas, on connaît, on ne connaît pas. Moi, j'aime. Moi, je m'y plais vraiment bien. Hein. Mon épouse aussi, d'ailleurs. Et ma femme est des Ardennes, elle. Hein. Et moi, je suis de la Champagne, je suis de l'Aude, un tout petit village, donc. Et c'est vrai que j'ai toujours eu dans la famille, on avait soit des boulangers, soit des plombiers. Voilà. Et à l'origine, même, c'était des maréchaux-ferrants. Mais bon, la forge a fermé, faute de chevaux. Donc, mais mon père et mon parrain se sont reconvertis. Mais on connaît cet esprit un petit peu du commerçant. Moi, j'ai cet esprit-là du service. Parce que je pense que en dehors du fait de vendre du pain ou des gâteaux, il y a un service qui est apporté aux gens. Il y a une écoute aussi, parce que bon, ben, certaines personnes, à certains moments, savent que, bon, connaissent nos idées, connaissent notre point de vue sur les choses, et on parle. Les gens nous parlent, les gens, tout simplement, même des fois, on ne leur dit rien, mais ils nous parlent, parce que c'est important, je pense, dans le monde moderne, maintenant, d'être capable d'écouter les autres. Parce que je crois que le monde, maintenant, si vous voulez, souffre beaucoup de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Et les gens souffrent beaucoup de ne pas pouvoir parler. Nous, on essaye d'être là comme on peut, avec beaucoup, de toute façon, beaucoup d'humilité. Hein, je ne veux surtout pas dire que... Oui. Oh, non, non. On a beaucoup d'humilité. On essaye d'écouter ceux qui veulent nous parler. Puis ceux qui ne veulent pas, ben, ils ne nous parlent pas, c'est tout. C'est... Bon, nous, on est arrivé dans ce village il y a 3 ans, on est arrivé comme étant des étrangers, je veux dire, il faut être clair et net. Hein, nous, maintenant, on a essayé depuis 3 ans de s'intégrer au village, du mieux qu'on a pu. Il est clair et net qu'il y a des personnes qui ne nous aiment pas, pour des raisons qui leur sont propres, et qui ne nous aimeront jamais, mais ça, c'est leur problème et leur droit. Il y a des personnes qui nous apprécient beaucoup. Nous, ce qu'on essaye au maximum de faire, c'est de rendre service aux gens dans la mesure où on le peut. Par exemple, il y a la pharmacie nous dépose les médicaments, on les rend aux gens, il y a une commission à faire à un tel, on nous laisse un petit papier, un petit paquet, bon, voilà. Et puis surtout, je pense, en dehors du fait, effectivement, que le métier, j'essaye de le concevoir, bon, pas comme dans le temps, parce que je ne ferai jamais le pain qu'on faisait dans le temps, parce que premièrement, il faut être clair, hein, et honnête surtout, si demain, on devait faire manger aux gens de Bruyolles, ou d'ailleurs, hein, le pain... il y a un siècle, ils ne le mangeraient pas. Parce qu'ils ne sont plus habitués à manger ce type de pain-là. Moi, j'ai mangé du pain comme faisait ma grand-mère il y a maintenant 45 ans passés. Je ne suis pas certain que je le remangerais régulièrement, parce que c'était vraiment une sorte de pain dont on n'est plus habitué de manger. Quoi, voilà. Mais j'essaye, si vous voulez, moi, de respecter mon métier, mon travail, de travailler avec les meilleurs produits. Par exemple, toute la pâtisserie est faite pur beurre. Il n'y a pas un gramme de margarine dans mon magasin. J'essaye de travailler, si vous voulez, avec des produits les mieux que je peux. Je fais travailler les producteurs locaux, par exemple, M. Brouillas, en ce qui concerne les fruits rouges, hein, les fraises et les framboises. Je fais travailler Mme Récicot et M. Récicot en ce qui concerne les pommes, les autres fruits. Bon, je travaille avec les moulins du Forez pour tout ce qui est la farine, pour essayer de travailler avec des producteurs qui sont proches de moi, quoi. Voilà. Et puis, j'essaye de respecter tout ça. En travaillant avec des méthodes modernes, mais des méthodes qui sont très bonnes. Hein, des méthodes où on joue surtout sur la longueur de la fermentation, en diminuant le grammage de levure, ce qui fait qu'on a des pains qui se conservent, des pains qui ont du goût. Puis voilà. Et puis le four à bois fait le reste, hein, faut pas rêver. Le four à bois, ça vous donnera un pain Vous ne ferez jamais un pain comparable à un pain cuit dans un four à bois, dans un four moderne. Ça n'existe pas. Il y a vraiment une croûte différente. Il y a quelque chose qui est propre au four à bois et qui fait que bon, bah, c'est 50% du goût du pain. On promouvoit un petit peu, je dirais, les personnes qui font leur travail correctement, qui essayent de faire leur boulot correctement, par exemple au niveau des fermes. Mm-hmm. Bon, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui travaillent ben, dans l'amour de leur métier. Bon, il y en a d'autres qui font pas partie du qui ne sont pas, je dirais, dans le voisinage de la pierre bleue, qui le font si correctement. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des gens qui s'engagent sur autre chose, c'est-à-dire qu'ils conçoivent que leur métier c'est plus encore que d'avoir des bêtes ou de faire du céréal, mais aussi un accueil des personnes. Parce que je pense que des métiers comme le métier d'agriculteur paysan sont des métiers qui se perdent. On le voit bien dans le village, on m'avait dit le nombre exact de fermes il y a une cinquantaine d'années. Je dirais maintenant, c'est ridicule ce qui reste, quoi. Mais il y a encore des gens qui se battent pour leur métier, qui aiment ça. Et je pense que bah, c'est bien de le promouvoir. Et puis d'associer aussi peut-être aussi des gens qui sont peut-être plus des artistes. Bon, un mot, dans le mot artisan, hein, il y a le mot paysan et le mot artiste. Donc moi là-dessus, je suis bien placé pour parler. Mais je dirais que ce sont un assemblage de personnes qui ont à cœur d'aimer d'abord, d'aimer leur région, d'aimer leur pays, et puis d'aimer ce qu'ils font. Que ce soit faire du pain comme moi, produire du lait ou des légumes, faire de la musique, faire de la poterie. Enfin, voilà, c'est ça, c'est important. C'est le rendez-vous de ceux qui, je dirais, des amoureux de leur métier, des amoureux de leur pays.
Voilà, et puis ce lien entre, vous disiez, entre artisans et artistes, entre agriculture et culture, parce que c'est un peu la thématique de ce festival.
Je pense que c'est important parce que je crois qu'il ne faut pas cantonner les gens dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire dire, bon voilà, un agriculteur, c'est un agriculteur, il élève des vaches, et puis voilà. Et puis, non, un agriculteur, c'est quelqu'un qui a aussi une sensibilité, parce que je pense que plus on est près de la terre, et ça, moi je sais que je suis près de la terre et que j'aime tout ce qui est nature, et même si je ne peux pas bêcher mon jardin, parce que ça se comprend très bien, déjà je ne dors pas beaucoup, si en plus je faisais du jardin, on n'en sortirait pas. Et puis en plus, la nuit, c'est difficile de travailler. Mais je pense que quand on est près de la terre, comme sont les gens, les agriculteurs, hein, les paysans, comme on dit vulgairement, eh bien, sont des gens qui ont une sensibilité certainement beaucoup plus forte que des gens qui peuvent vivre dans du béton, à mon avis, hein, et entourés de bruit, de pollution, trucs comme ça. Il y a une sensibilité, même s'ils ne la montrent pas. Parce que ce sont des gens, je pense, qui sont très pudiques. Moi, je suis originaire de gens de la campagne, de forgerons, de boulangers, des gens qui étaient pudiques, des gens qui étaient discrets, des gens qui avaient une très grande sensibilité. Et presque tous jouaient d'un instrument, par exemple, voyez.
Vous-même
Moi, je jouais de la guitare, je jouais de tout instrument de cuivre, trompette, trombone. Bon, mais j'ai arrêté, je ne peux plus. Mais vous voyez, dans ma famille, il y avait des joueurs d'accordéon, des joueurs de violon, des chanteurs, parce que ce sont des gens, il y avait des peintres. Moi, j'ai ma grand-mère qui était une amoureuse des fleurs et qui faisait des jardins magnifiques. Bon, j'ai mon père qui peint. Vous voyez, il y a cette sensibilité. Et vous prenez, par exemple, dans Brulia, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient du théâtre.
D'accord.
Il y a des agriculteurs, il y a une famille, entre autres, où presque ça va du père jusqu'au fils, aux filles, qui jouent dans l'orphéon. Parce qu'il y a cette sensibilité. Quand on est de la terre, on est sensible. On ne peut pas être de la terre si on n'est pas sensible. Ce n'est pas possible. Parce que la terre, ça demande justement une sensibilité. Ça. On travaille la terre, je pense, avec ses mains, bien sûr, mais avec ses tripes aussi, avec ce qu'on ressent. Parce que bien sûr, il y a les techniques, il y a les nouvelles technologies, mais il y a un moment où ça se sent. C'est comme le pain. À quel moment mon four il est chaud, ça se sent. J'ai un thermomètre, mais il ne me dit pas, je le sens. C'est ça, c'est les métiers de sensibilité, de sensitivité. Voilà, c'est important. Bah, je dirais que moi, je crois à l'intelligence de l'homme. Jusqu'à présent, il nous a, depuis un siècle, montré sa grande stupidité, sa grande bêtise. Hein. On reprend l'histoire et on verra tout. Mais si on reprend l'histoire de l'homme depuis l'origine, on s'aperçoit que l'homme n'a fait qu'évoluer. Donc, moi, je pars du principe que l'homme va continuer à évoluer. Je pense, ça, j'avais lu un article, je ne sais plus de qui, hein, mais d'un homme certainement beaucoup plus intelligent que moi et plus instruit, qui avait dit qu'on vivait à cette époque une époque charnière comparable à l'époque charnière qu'il y a eu entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est-à-dire, on est passé d'un certain obscurantisme à une certaine lumière. Et je pense que là, on va justement revenir à des valeurs différentes, certainement, mais des valeurs, je dirais, humaines et logiques. Parce que, bon, manger du fast-food, bon, ça va bien 5 minutes. Voir, quand il suffit d'aller dans le supermarché et de voir, ou de se promener en ville, et de voir les gens dans quel état physique ils sont, on se dit que ça ne peut pas continuer. parce que de plus en plus les gens deviennent, disons, obèses, des choses comme ça. Donc ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible, parce que je crois beaucoup à la sauvegarde de l'espèce humaine, et là on va droit dans le mur. Et si on reprend bien aussi l'histoire des villages, maintenant on s'aperçoit que de plus en plus des personnes issues de la ville ou issues à l'origine des milieux agricoles ou des milieux campagnards reviennent, retournent aux sources. Moi je suis issu d'un petit village, je suis revenu dans un village. Je dis un jour, stop, j'arrête, je refuse de travailler, de continuer. Je ne veux pas vivre le restant de ma vie dans du béton. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé, quoi. Et je pense que il faut croire au fait que, d'abord, on voit bien dans un village comme Brulioles, il y a de plus en plus de gens qui reviennent y habiter, même s'ils n'y travaillent pas, mais ils reviennent y habiter parce qu'ils sentent bien qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose, quoi. On ne peut pas continuer à vivre dans du béton, ce n'est pas possible, on ne peut pas.
Le béton, c'est embêtant, si je peux me permettre ce jeu de mots un peu bidon.
Moi, je veux dire, moi, j'y habitais pendant des années. Au bout d'un moment, c'est stressant, quoi. On ne peut pas vivre. Vous vous sentez un petit peu comme cloîtré, comme mis dans des boîtes, quoi. Et ça, c'est pas... Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais pu le vivre, ça.
D'accord. Vous allez à Lyon de temps en temps ?
Le moins possible. Et je suis bien content quand le nez de la voiture, il va dans le sens des monts du Lyonnais et pas dans l'autre sens. Vous voyez, je suis bien content, moi. Non, Lyon, c'est bon. C'est une très jolie ville. J'adore Lyon comme ville. C'est une des plus belles villes que j'ai pu visiter depuis le temps que je travaille. Mais je préfère 100 fois rentrer à Brulioles.
Un artiste qui habite à Brulioles depuis pas mal d'années maintenant.
Oui, il y a Steve.
Vous l'appelez Steve.
Steve Waring, c'est un copain, Steve Waring. C'est un frère de croyance, Steve Waring. Tous les deux, on se connaît bien, oui, ça fait quelques temps qu'on se fréquente maintenant, dans un petit groupe de partage, donc Steve Waring avec Marie-Ange, tout ça, oui, bien sûr, on se connaît, oui.
Vous dites un copain de ?
De croyance.
De croyance.
Oui.
Est-ce que vous pouvez en dire plus sur la croyance ou c'est des choses qui sont...
Non, mais bon...
Intime.
Non, c'est pas intime, parce que ce serait, si c'était intime... Enfin, c'est intime, enfin, je veux dire, il n'y a pas le cacher. Je veux dire, autrement, ça ne servira à rien de croire en quelque chose si on ne le fait pas partager aux autres. Non, Steve et moi, on fait partie d'un petit groupe de partage qui, sur Brulioles, il y a une dizaine de personnes, et puis on se réunit une fois par mois pour parler, commenter un texte de l'Évangile, quoi, voilà, tout simplement. Et puis bon, on discute pas mal de temps en temps, quand il a du temps, parce que c'est un homme qui est très pris aussi, hein, mais quand il vient à la boulangerie, on discute 5 minutes de ce qui se passe dans le village, choses comme ça, quoi.
Et quand un boulanger n'est pas dans sa boulangerie,
oui.
Et quand il ne dort pas,
oui.
Qu'est-ce qu'il fait ? Quelles sont vos passions, vos hobbies ? Est-ce que, bon, a priori, il y a la croyance, il y a ce genre de choses qui doivent vraiment remplir votre quotidien, mais
fait, oui.
Je ne sais pas, un sport, des lectures,
télé. Non, ça va être. Je vais vous dire une chose.
À regarder aussi. Hein.
Quand je rentre à la maison, grosso modo, il est 12h30, 1h15. Donc, je mange, je regarde un petit peu les infos. À 1h30, 2h15, je suis couché. Après, je me lève, il est 3h30, 4h15, péniblement. Je rattaque jusqu'à 7h30. À 7h30, on mange jusqu'à 8h15. On regarde un peu la télévision jusqu'à 9h, 9h15, et puis voilà, quoi. Alors, ce que j'aime bien, de temps en temps, on a fait ça pendant des années, mais maintenant, ça devient difficile, c'était de la randonnée. J'ai fait beaucoup de randonnées dans la région, et c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais de la randonnée dans la région, je disais à mon épouse, qu'est-ce que j'aimerais bien habiter ici.
Mm-hmm.
Puis voilà, bon, on y est, vous voyez. Mais c'est vrai que maintenant, ça devient plus difficile. Le sport, les hobbies, ça devient malheureusement chose anecdotique, quoi. C'est vrai que c'est plus possible.
Puis ça, c'est peut-être quand on a des loisirs et vous, votre travail et votre vie ne font qu'un, donc peut-être qu'il n'y a pas ce besoin.
Non. C'est pas toujours le meilleur moyen, je dirais, de se rencontrer entre un homme et une femme, de travailler ensemble. Et ça, tous ceux qui travaillent ensemble, les couples qui travaillent ensemble, vous diront que c'est certainement là le plus mauvais moyen d'être ensemble. Parce que c'est là où il y a les tensions, c'est là où il peut y avoir justement les problèmes. Donc on a besoin un peu de trouver ce temps un petit peu d'être tous les deux et de s'évader un peu, quoi. Ça, c'est important.
Radio Potu 107.5.